équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail SIA Cordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Il est 15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dèze. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le ministre de la Défense israélien prévient le guide suprême iranien qu'il pourrait subir le même sort que Saddam Hussein. Le président irakien avait été renversé en 2003 puis exécuté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà estimé avant lui que l'assassinat d'Ali Khamenei mettrait fin au conflit entre l'Iran et Israël. Au cinquième jour de l'escalade entre les deux pays, l'armée israélienne annonce avoir tué le plus haut gradé de l'armée iranienne, décrit comme proche du guide suprême iranien Ali Khamenei. Téhéran affirme de son côté avoir détruit des cibles stratégiques en Israël à l'aide de drones. Un centre du Mossad à Tel Aviv était notamment visé. Rentré aux États-Unis, Donald Trump dit vouloir une fin réelle au conflit entre l'Iran et Israël, pas un simple cessez-le-feu. Le président américain dit ne pas être dans l'optique de négocier. Sa peine a été réduite, définitivement condamnée dans l'affaire des emplois fictifs de son époux. François Fillon a écopé de 4 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il n'y a pas de prison ferme, pas de bracelet électronique. François Fillon est un homme libre, a réagi son avocat. Un enfant de 7 ans a été conduit au commissariat après avoir été trouvé hier en possession d'un couteau Aztec dans une école de Mulhouse. Il se vantait de vouloir agresser un camarade. Le couteau n'a pas été découvert lors d'une fouille des sacs à l'entrée de l'école, précise le recteur. Selon le parquet, c'est un élève qui aurait informé le directeur de l'école de la présence du couteau. Une enquête a été ouverte. C'est bien un airbag Takata qui est à l'origine de la mort d'une femme dans un accident de la route à Reims. L'autopsie l'a confirmé. L'explosion de l'airbag a provoqué de très graves blessures à la victime. Une enquête a été ouverte. Un autre décès lié au déclenchement d'un airbag défectueux a été enregistré fin mars en Guadeloupe. Les négociations entre partenaires sociaux ne progressent pas au dernier jour du conclave sur les retraites. Les discussions bloquent sur la pénibilité. Les syndicats veulent en particulier obtenir que la pénibilité et l'usure soient prises en compte pour pouvoir partir avant 64 ans, l'âge légal fixé par la réforme Borne de 2023. Le projet de loi de simplification en passe d'être rejeté à l'Assemblée. Les macronistes projettent de voter contre ce texte qui abroge notamment les ZFE, les zones à faible émission. En cas de rejet, le texte partira en commission mixte paritaire avant de revenir au Sénat. Et puis Jordan Bardella arrive en tête des personnalités politiques avec lesquelles les Français préféreraient partir en vacances. C'est ce qui ressort d'un sondage publié aujourd'hui. Suivent Marine Le Pen et Gabriel Attal. Le Premier ministre François Bayrou arrive en dernière position.
Europe 1.
Il est 15h03 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, c'est maintenant.
Europe 1. 15h, 16h.
Au cœur de l'histoire, Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, et comme chaque jour à 15h sur Europe 1, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, je vous raconte deux femmes qui ont œuvré dans l'ombre de deux politiciens qui tenaient le destin de la France entre leurs mains. Hélène de Porte, la compagne de Paul Reynaud, et Marie-Louise de Crussol, celle d'Édouard Daladier, deux femmes rivales devenues les mauvaises conseillères de deux hommes politiques en première ligne dans le conflit mondial et la défaite de 1940. Pourquoi les noms de ces deux femmes au rôle décisif nous sont-ils aujourd'hui totalement inconnus? Quelles étaient leurs convictions idéologiques et politiques? Comment étaient-elles perçues par leurs contemporains? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité Damien Roger, qui leur redonne vie dans un passionnant roman, découvrons d'abord le destin d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes le 10 mai 1940, alors que l'armée française engagée contre le Troisième Reich, aux côtés des Anglais patientes derrière la ligne Maginot, et que le conflit armé s'enlise depuis plusieurs mois dans un étrange immobilisme, les Allemands mènent une offensive décisive sur le front ouest qui met finalement un terme à cette drôle de guerre, comme l'histoire la nommera. Après avoir attaqué les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg en violant leur statut de neutralité, l'Allemagne nazie fait une percée. là où ses adversaires ne l'attendent pas, en traversant les Ardennes puis la Meuse. En moins de 5 jours, la Wehrmacht fait plier le front français sans qu'aucune tentative de contre-attaque ne parvienne à l'arrêter. Moins d'un an après la déclaration de guerre, le nord de la France est envahi. La débâcle sème alors le désordre et la panique. Dans la surprise et la plus grande confusion, tout le pays s'affole et se presse de reculer devant l'ennemi qui arrive. Paris se vide. La population française s'enfuit à la hâte sur les routes pour un exode vers le sud dont les images resteront tristement gravées dans l'histoire. Impuissant, même le gouvernement ne tarde pas à plier bagage. Le 10 juin, il déserte la capitale. Le président du Conseil, Paul Reynaud, totalement démuni, se réfugie alors vers la Loire avec les membres de son gouvernement. Retranché dans un lieu tenu secret, il examine anxieusement les options qui lui restent. Il hésite, pèse le pour et le contre et discute, trop peut-être, prenant les différents avis de son entourage, sans savoir à quelle voie se fier. Pendant quelques jours déterminants, dont l'issue fera basculer le destin de l'Europe, Winston Churchill effectue lui plusieurs allers-retours entre Londres et le Val-de-Loire pour convaincre la France de continuer à résister. Parmi les proches de Paul Reynaud, certains, comme le général Weygand et le maréchal Pétain, plaident pour l'armistice avec l'Allemagne. D'autres, comme de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre, pour la poursuite des combats. Et le président du Conseil lui-même oscille d'un bord à l'autre. D'abord convaincu, comme de Gaulle, que la France doit se battre depuis l'Afrique du Nord, il recule finalement et demande à Churchill s'il peut contrevenir à l'accord conclu le 28 mars précédent entre leurs deux pays, excluant toute possibilité de paix séparée. Le 13 juin au soir, le président du Conseil prononce une allocution à la radio et clame que, je le cite, « l'âme de la France n'est pas vaincue ». Le lendemain, alors que le gouvernement arrive à Bordeaux, Paris tombe sans se défendre et Paul Reynaud continue de tergiverser. 2 jours plus tard, ne pouvant plus assumer la situation, il donne sa démission au président Lebrun, qui le fait aussitôt remplacer par le maréchal Pétain, comme je vous le racontais hier ici même. Le nouveau président du Conseil, lui, n'hésite pas une seconde avant d'agir. Le 17 juin 1940, il adresse son message aux Français. « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. » Au fil des semaines, l'armée allemande continue sa déferlante sur le pays, obligeant toujours plus de Français à fuir vers le sud. L'armistice est signé à Retonde le 22 juin 1940 et scinde le pays en deux. Une ligne de démarcation sépare désormais la zone occupée, sous la férule allemande, de la zone libre, qui sera administrée par le gouvernement collaborationniste de Vichy. Si l'histoire de la défaite semble avoir été écrite uniquement par des hommes, ceux qui étaient aux commandes, donc, certaines voix féminines en coulisses ont également pesé. Deux femmes en particulier, dont vous ignorez certainement les noms, ont joué un rôle important dans les événements que je viens de vous raconter, sans que personne ou presque n'en sache rien. Leurs noms, justement, Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales que vous allez découvrir cet après-midi.
Et restez bien avec nous pour découvrir Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol. C'est dans un instant, dans la suite du récit de Stéphane Bern, 15h08. Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Qu'est-ce qui vous fait aimer l'été ? C'est de sortir votre tenue la plus stylée pour vos parties de golf ou vos parties de pétanque ? En revanche, pour le style de votre lancer, entre nous, il y a encore du boulot.
Et si ce qui allait vous faire adorer l'été, c'était le style et le confort de notre short ? Cette semaine, chez Decathlon, pour un short Inésis MW500 homme ou femme acheté, le deuxième est à moins 50%, soit 9,99€ au lieu de 19,99€. Short disponible en 18 couleurs.
Decathlon, élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport.
Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique ? Avec une autonomie jusqu'à 460 km et une charge utile jusqu'à 1625 kg, Renault vous accompagne dans votre transition avec sa gamme d'utilitaires e-tech électriques assemblées en France. Découvrez Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master. En ce moment, l'électrique est au prix du diesel.
Master selon version, cycle WLTP. Véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail si accordiac. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Recruter une personne de plus de 50 ans ou jamais de la vie?
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Ah non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant deux semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Europe 1, 15h, 16h.
Au cœur de l'histoire.
Avec vous Stéphane Bern, et aujourd'hui Stéphane, vous nous racontez sur Europe 1 le destin de deux femmes rivales qui ont joué un rôle méconnu dans la défaite française de 1940, les dénommées Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol.
Pour bien comprendre, il faut remonter quelques années en arrière, à l'aube des années folles, lorsque Paris se remettait gaiement de la Première Guerre mondiale sans soupçonner l'imminence de la Seconde. Au début des années 20, Marie-Louise Béziers et Hélène Rebuffel, alors sous leur nom de jeune fille, font leur premier pas dans le monde. Âgées d'une vingtaine d'années, elles viennent respectivement de Lorient et de Marseille. Et si elles ont fait le déplacement, ce n'est pas uniquement pour profiter des plaisirs de la capitale et de la compagnie raffinée de ces cercles mondains, mais bien pour trouver parmi eux de bons partis à épouser. Des maris dignes des hautes ambitions de leur famille. Les Béziers et les Rebuffel ne sont pas nobles, mais ils sont riches. Après avoir fait fortune dans l'industrie des conserves pour les premiers, dans les savons et les travaux publics pour les seconds, ils aspirent à ce que leur fille s'élève de leur statut de grande bourgeoise de province pour mettre un pied dans le milieu fermé de la haute aristocratie. La concurrence entre les deux familles est immédiate et pour cause. Marie-Louise Béziers et Hélène Rebuffel se disputent alors le même homme, le très convoité Emmanuel de Crussol d'Uzès, fils cadet du duc d'Uzès. Dans le récent roman qu'il consacre à ces deux figures féminines de l'entre-deux-guerres, notre invité Damien Roger met en scène la rivalité qui oppose très tôt les deux femmes. Dans les salons parisiens, les bons mots fusaient, écrit-il. On disait de Marie-Louise Béziers « Voilà une sardine qui s'est crue seule », tandis qu'on ricanait à l'idée qu'Hélène Rebuffel, une Marseillaise, pût accéder à un si brillant mariage. A-t-on déjà vu une marquise avec l'astin chantant du midi ? Désormais, c'était la Bretagne contre la Provence. Les pronostics allaient bon train et chacun avait son avis sur le dénouement qu'on pouvait en attendre. Marie-Louise Béziers remporte finalement la bataille. En 1924, elle épouse celui avec lequel se voyait déjà vivre Hélène Rebuffel et elle devient la marquise de Crussol, faisant ainsi la fierté de ses parents. Devenue une grande dame, elle n'en est pas pour autant heureuse en ménage. Trop ambitieuse pour se contenter d'être l'épouse sage de son mari, elle aspire à étudier et à faire entendre sa voix. Après ses noces, elle est l'une des premières femmes à suivre une formation à l'École libre des sciences politiques. Passionnée par ce qu'elle apprend, Marie-Louise de Crussol aspire désormais à ouvrir un salon littéraire et politique à Paris. Mais une grossesse que tout le monde semblait attendre, sauf elle, l'éloigne un temps de son ambition. Le 24 décembre 1925, elle met au monde un fils dont elle s'occupera peu, sa priorité étant de s'adonner à ses propres projets. Rapidement, elle se fait en effet connaître pour ses engagements. Le journal Excelsior, daté du 15 juin 1930, brosse ainsi son portrait. La marquise de Crussol porte avec une juvénile et cordiale gaieté un des plus beaux noms de la vieille France. Mais la marquise de Crussol se flatte d'être moderne. Aucun des grands courants contemporains ne lui est étranger et elle prodigue sa multiple activité entre des œuvres philanthropiques et l'Union française pour le suffrage des femmes, dont elle est la secrétaire générale. La politique. Voilà un domaine dans lequel Marie-Louise de Crussol et Hélène Rebuffel se trouveront de nouveau en opposition. Pour l'audacieuse et sagace Hélène Rebuffel, cela débute par une rencontre. Celle d'un homme politique prometteur et figure de la droite modérée, un certain Paul Reynaud, dont elle tombe vite amoureuse. Il a 24 ans de plus qu'elle, il est marié, mais leur attirance est plus forte. Ils deviennent amants avant même qu'Hélène Rebuffel et fait le grand mariage tant espéré de sa famille. Ces moments d'égarement dans les bras de Renaud, auxquels elle recédera bientôt, n'empêchent cependant pas la jeune femme de songer à son avenir. Elle n'avait peut-être pas la beauté, mais elle avait le charme, le panache, l'éclat et l'audace. Elle avait la fortune aussi, elle était trop ambitieuse pour accepter de demeurer dans l'ombre, écrit l'auteur Damien Roger. Pour avancer dans le monde, elle le sait, il faut bien plus qu'un amant haut placé, il lui faut un mari et un nom prestigieux. Ce sera finalement Henri de Portes, fils du marquis de Portes, qu'elle épouse en 1930. Après des années d'inquiétude, monsieur et madame Rebuffel se félicitent de voir enfin leur fille mariée. Mais vous l'aurez deviné, la vie de famille l'intéresse peu. Comme sa rivale Marie-Louise de Crussol, Hélène de Portes a peu de goût pour la maternité et après avoir donné naissance à deux enfants, elle préférera se détourner des siens pour satisfaire ses propres ambitions. À une époque où il est encore de bon ton pour une femme de se dévouer à son foyer, toutes deux osent vivre séparément de leur époux et s'affirmer autant que leur sexe le leur permet sur la scène politique.
Et nous allons le découvrir dans la suite de votre récit, Stéphane Bern. Vous nous racontez cet après-midi sur Europe 1, Marie-Louise de Crussol et Hélène de Portes, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. A tout de suite, au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Noroto.
6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si, avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà ! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1€, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors je comprends, le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas, je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1€, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Ben voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en vois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal ?
Oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Europe 1, 15h, 16h, au cœur de l'histoire.
Avec vous Stéphane Bern, cet après-midi, on plonge sur Europe 1, dans le Paris de l'entre-deux-guerres, alors que la politique est encore un domaine réservé aux hommes, deux femmes de caractère, entendent y prendre leur place en jouant de leurs relations. Hélène de Portes, qui vient d'épouser le marquis de Portes, et Marie-Louise de Crussol, qui a épousé celui de Crussol.
Dans les années 30, Marie-Louise de Crussol et Hélène de Portes font ce que les dames font depuis des siècles pour faire entendre leurs idées, elles tiennent salon. Tandis que la marquise de Crussol reçoit dans son hôtel particulier d'avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement de Paris, des personnalités politiques et littéraires de tous bords, la comtesse de Portes entend réunir chez elle, dans la toute proche avenue Foch, les figures de la droite parlementaire, à commencer par son cher Paul Reynaud. Chez la marquise de Crussol, bientôt surnommée la marquise rouge, pour son penchant un peu à gauche, les écrivains André Gide, Paul Valéry ou encore François Mauriac côtoient notamment des membres du Parti radical. Parmi eux, le ministre et député du Vaucluse, Édouard Daladier, attire l'attention de Marie-Louise de Crussol. Veuf et quelque peu mal assuré, le brillant fils de boulanger ayant gravi tous les échelons de la Troisième République trouve en elle une oreille attentive. Tous deux se lient d'amitié et bien vite la marquise devient à la fois la compagne et la conseillère du politicien. Plus raffinée que lui, plus mondaine aussi, c'est rien de le dire, Marie-Louise de Crussol élargit son cercle de connaissances et l'aide à développer sa stature d'homme d'État. Lorsque Daladier est nommé président du Conseil en janvier 1933, elle se trouve déjà là, dans l'ombre, pour l'épauler. Elle a tout fait pour qu'il accède à la tête du gouvernement et ne compte pas l'abandonner maintenant qu'il est parvenu au sommet. Marquée par la crise économique et les velléités d'expansion de l'Allemagne, les années à venir s'annoncent rudes. Outre Rhin, ce même mois de janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich. À cette date, tandis que Daladier et la marquise de Crussol forment un duo solide qui règne sur l'hôtel Matignon, Hélène de Porte et Paul Reynaud ne se cachent plus des autres habitués du Palais Bourbon. La comtesse et le député de la Seine ont renoué les liens et affichent leur amour au grand jour, sa maîtresse nourrissante à présent pour Paul Reynaud, une ambition dévorante. Pour son amant et pour elle également, elle n'espère rien de moins que la présidence du Conseil. Mais l'heure de Paul Reynaud n'est pas encore venue. Édouard Daladier, certes renversé par une crise politique en février 1934, n'a pas encore dit son dernier mot. La victoire du Front populaire en 1936 lui offre le ministère de la Défense sous Léon Blum, et deux ans plus tard, le voici déjà de retour au pouvoir. Face aux périls grandissants qui menacent le pays, le président du Conseil et la marquise de Crussol se veulent lucides mais optimistes. La France, au bord du gouffre, ne perd pas espoir et chante alors avec humour une chanson de Ray Ventura dont les paroles résonnent ironiquement avec l'actualité.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise qu'on déplore un tout petit rien.
Pour tenter de faire face à la montée du fascisme en Europe, Édouard Daladier se résout à former un gouvernement de coalition nationale et propose à Paul Reynaud le portefeuille de la justice. Sous la pression de l'extrême droite, le président du Conseil adopte également rapidement plusieurs mesures répressives à l'égard des immigrés. Mais tout cela ne suffira pas à éteindre le brasier sur lequel marchent désormais les dirigeants européens et français. Nous sommes alors au printemps 1938 et la guerre n'est plus très loin. Hitler s'y prépare activement, il vient déjà d'annexer l'Autriche. Il revendique désormais le territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie. Mais la Grande-Bretagne et la France font mine de ne pas croire à l'escalade. En Europe, personne ne veut revivre les atrocités des deuils de la Grande Guerre. Le 29 septembre 1938, Édouard Daladier, le premier ministre britannique Chamberlain et l'Italien Mussolini signent donc avec le Führer les accords de Munich. Pensant ainsi préserver la paix, ils sacrifient alors une part du territoire de la Tchécoslovaquie, pourtant alliée de la France, en consentant à son occupation par l'Allemagne nazie. Honteux de cette trahison, Édouard Daladier ne cache pas sa surprise de voir une foule insouciante l'acclamer à son retour à Paris. Le peuple, autant que ses dirigeants, veut encore croire qu'il est possible d'éviter la guerre. Elle s'avère pourtant inéluctable lorsque Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Liés par des traités d'alliance avec le pays attaqué, la Grande-Bretagne et la France s'engagent dans le conflit deux jours plus tard. Paul Reynaud, qui a été nommé ministre des Finances depuis novembre 1938, est en première ligne, aux côtés d'Édouard Daladier à l'ouverture des hostilités. En première ligne et prêt à le remplacer, comme l'espère-t-on sa maîtresse. Le couple est désormais installé dans un appartement sur la place du Palais Bourbon, d'où il surveille attentivement le déroulement des événements qui vont maintenant se précipiter.
Et nous allons le voir dans la suite de votre récit, Stéphane Bern. Vous nous racontez aujourd'hui Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940, 15h23. Excellent après-midi au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
Cette campagne militaire est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël et du peuple juif.
Ce que craint Trump comme la peste, c'est que perdu pour perdu, le régime islamique d'Iran cherche à tout casser.
Il faut empêcher à tout prix l'Iran d'obtenir la bombe.
En cas d'attaque iranienne sur des bases militaires américaines dans la région, toute la force et la puissance des forces armées des États-Unis s'abattront sur la République islamique.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
La sixième édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca, un livre sur la plus grande grève féministe du XXe siècle en Bretagne.
Dans cette grève, c'est ça que j'ai trouvé romanesque, c'est qu'en effet, ces 3000 femmes, elles vont réussir à se souder et ça leur a donné une énergie qui a ramené en permanence celles qui doutaient, celles qui étaient prêtes à céder. Et c'est cette force, cette union, cette solidarité qui fait qu'on gagne ou pas.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
Assaïra, 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 chez Citroën, nous on ira. Assaïra, 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 nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon,
canon, canon, canon,
sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Assaïra, 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 des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
15h-16h, Stéphane Bern.
Et ce mardi après-midi, Stéphane, vous nous racontez sur Europe 1 la rivalité qui oppose à l'aube de la Seconde Guerre mondiale Hélène de Porte, la compagne de Paul Reynaud, et celle d'Édouard Daladier, la marquise Marie-Louise de Crussol. Deux hommes politiques, le président du Conseil et son ministre des Finances, qui sont en première ligne, vous nous le disiez, à l'ouverture des hostilités, et les événements vont se précipiter.
Très tôt dans cette drôle de guerre, la France semble impréparée et le gouvernement ne tarde pas à en être accusé. Sa passivité au moment de la capitulation de la Finlande face à l'armée soviétique à la mi-mars 1940 précipite la chute du président du Conseil. Critiqué à l'Assemblée, jugé incompétent pour mener cette lutte, Édouard Daladier est contraint de démissionner. Le 20 mars 1940, moins de 7 mois après la déclaration de guerre, Paul Reynaud est alors appelé à le remplacer à Matignon. Et en coulisses, Marie-Louise de Crussol cède donc sa place à Hélène de Porte, au rang de première dame. Les recommandations de sa maîtresse sont on ne peut plus précieuses aux yeux du nouveau président du Conseil. Dès son accession au pouvoir, Paul Reynaud compte véritablement sur elle pour l'aiguiller. La place que prend Hélène de Porte pendant les semaines cruciales qui précèdent la défaite est attestée par de nombreux témoins de l'époque. Cette Française de 38 ans écoute tout, surveille tout et remplace même Paul Reynaud auprès des ministres, diplomates et journalistes lorsque son amant est souffrant. « Ne vous inquiétez pas, mon petit Paul, nous travaillons », dit-elle alors à son compagnon alité, avant de se remettre à l'œuvre avec assurance au sein même du domicile du couple. Confronté à Hélène de Porte en personne lors de réunions hautement sensibles, l'ambassadeur des États-Unis fait part de son inquiétude au président Roosevelt par télégraphe. Les Français qui se battent méritent mieux que d'être gouvernés par la maîtresse du président du Conseil. La comtesse, plus qu'une compagne, devient en quelque sorte la directrice de cabinet de Paul Reynaud et l'aide à s'entourer. Nommé ministre de la Défense et de la Guerre d'abord, puis des Affaires étrangères, Édouard Daladier reste un temps au gouvernement. Mais Paul Reynaud, influencé par ses propres opinions et celles d'Hélène de Porte, s'entoure de personnalités aux convictions très divergentes. Pour modifier la dynamique qui se joue au détriment de la France, il tente plusieurs fois de rebattre les cartes. Il écarte d'abord le général Gamelin de l'état-major pour le faire remplacer par le général Weygand. Puis lorsqu'il remanie son gouvernement le 5 juin après la percée surprise de la Wehrmacht dans le nord du pays, il se déleste d'Édouard Daladier. Paul Reynaud choisit alors de faire confiance à Charles de Gaulle, qui milite depuis longtemps pour la création de forces blindées pouvant concurrencer celles de l'Allemagne, et le nomme sous-secrétaire d'État à la guerre, un choix que désapprouve sa compagne. Plutôt que de Gaulle, qu'elle exècre, la comtesse de Porte a milité très tôt pour le retour en France du maréchal Pétain, jusque-là ambassadeur de France en Espagne franquiste. Hélène de Porte, germanophile et pacifiste, est persuadée que le héros de Verdun sera mettre un terme à une guerre qu'elle juge absurde. Elle voulait, pour l'octogénaire, le ministère de l'Intérieur, mais c'est Georges Mandel qui l'a obtenu. Qu'à cela ne tienne, Hélène de Porte a poussé son amant à faire de Philippe Pétain le vice-président du Conseil.
Monsieur le maréchal, empêchez Paul de faire des bêtises, lui aurait-elle dit à son arrivée à Paris, en mai 1940. Faut-il resserrer l'alliance avec l'Angleterre ou négocier avec l'Allemagne ? Alors que l'armée française est en déroute, c'est une autre guerre qui se joue au sommet de l'État. Les partisans des deux camps s'affrontent sans que Paul Reynaud ne parvienne véritablement à trancher. Aux côtés de Georges Mandel et de De Gaulle, il se montre plutôt favorable à une poursuite du conflit, tandis que le maréchal Pétain, le général Weygand et Hélène de Porte militent pour l'armistice. À son arrivée à Bordeaux le 14 juin, Paul Reynaud croit encore que la France peut poursuivre la guerre depuis les colonies. Les navires, les hommes et les armes sont prêts à traverser la Méditerranée. Une fusion de la Grande-Bretagne et de la France est même envisagée. Le général de Gaulle part alors avec l'aval de Reynaud en Angleterre pour préparer le retrait des troupes en Afrique du Nord. Mais quand il s'apprête à regagner Bordeaux, il apprend que le président du Conseil a fait volte-face. Le 16 juin 1940, je vous le racontais au début de mon récit, Paul Reynaud démissionne et cède sa place au maréchal Pétain. Dans un dernier acte désespéré, il donne 100 000 francs à Charles de Gaulle, qui l'encourage à poursuivre la lutte depuis Londres, mais sans lui donc. La France a perdu la guerre, mais Hélène de Porte a eu sa victoire. Elle s'enfuit alors avec son amant dans le sud de la France. Le 28 juin 1940, elle est victime d'un accident de la route. Lorsqu'il apprend la nouvelle depuis Londres, le général de Gaulle, qui a depuis lancé depuis le micro de la BBC son appel du 18 juin, ne mâche pas ses mots. J'espère qu'elle est crevée, la salope. Elle l'est. Paul Reynaud lui en réchappe alors que l'armistice s'apprête à être signé.
Et nous allons le découvrir dans un instant sur Europe 1. Stéphane Bern nous racontera la suite et la fin du récit consacré aujourd'hui à Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940.
Europe 1, le journal permanent.
Mais avant de découvrir la suite, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce mardi 17 juin. C'est avec vous, Émilie Dez.
Notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants, assure le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, interpellé à l'Assemblée en pleine escalade militaire au Proche-Orient. Une ligne téléphonique a été ouverte, une cellule d'écoute aussi. Au cinquième jour de confrontation entre l'Iran et Israël, Donald Trump, parti précipitamment du G7, dit vouloir une fin réelle au conflit, pas un simple cessez-le-feu. Téhéran affirme avoir détruit des cibles stratégiques en Israël à l'aide de drones. Un centre du Mossad à Tel Aviv était notamment visé. De son côté, l'armée israélienne annonce avoir tué le plus haut gradé de l'armée iranienne, décrit comme proche du guide suprême iranien Ali Khamenei. François Fillon, condamné dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, a vu sa peine réduite à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il avait, il y a 2 ans, écopé d'un an de prison ferme et de 10 ans d'inéligibilité. Le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 qui font l'objet d'un rappel. L'autopsie confirme la responsabilité de l'airbag Takata dans la mort d'une jeune femme tuée dans un accident de la route à Reims. L'explosion de cet airbag a provoqué de très graves blessures à la victime. Une pièce métallique a été retrouvée dans son larynx. Il se vantait de vouloir agresser un camarade. Un enfant de 7 ans a été conduit au commissariat après avoir été trouvé en possession d'un couteau aztèque dans une école de Mulhouse. Une enquête a été ouverte. Notez que la surveillante poignardée à mort la semaine dernière à Nogent recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Ses obsèques ont lieu aujourd'hui dans la plus stricte intimité familiale. Les négociations n'avancent pas, déplore la CFDT. Dernier jour du conclave aujourd'hui avec un défi de taille, trouver un accord pour améliorer la réforme des retraites. Les discussions bloquent toujours sur la pénibilité. Hier, François Bayrou a pris tout le monde de court en proposant une prime aux salariés seniors pour les maintenir en poste. Le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, estime que cette proposition ne permettra pas d'avoir un accord avec les syndicats. Et puis, quel avenir pour les ZFE? Le projet de loi de simplification pourrait bien être rejeté à l'Assemblée. Les macronistes projettent de voter contre. Le texte prévoit de supprimer les zones à faible émission, notamment.
C'était Émilie Dès sur Europe 1. Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve dès 16h pour un nouveau point sur l'actualité.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Et pour le moment, Stéphane Bern, vous nous racontez sur Europe 1 les destins de deux femmes méconnues qui ont pourtant joué un rôle majeur durant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de leurs bien-aimés, respectivement Paul Reynaud et Édouard Daladier, Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol. Deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. Une défaite qui s'annonce.
Avant que l'armistice soit signé le 22 juin, craignant pour leur sécurité, Édouard Daladier et Marie-Louise de Crussol ont rejoint l'Afrique du Nord à bord du paquebot Massilia. Puis leurs chemins se sont séparés dans le désordre que se met dans chaque vie et sur tous les continents le chaos de 1940. Malgré tous leurs efforts pour demeurer au sommet, la défaite française perdit finalement aussi la comtesse de Porte et la marquise de Crussol. Quant à leurs compagnons, ils se retrouvent désormais seuls face à l'ennemi qu'ils n'ont pas su repousser. Secondé par son vice-président Pierre Laval, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 et cherche des boucs émissaires. Sous le gouvernement qui se met en place à Vichy, Paul Reynaud comme Édouard Daladier sont considérés comme responsables de la défaite française et jugés à ce titre. D'hommes d'État respectés sous la Troisième République, ils deviennent désormais des traîtres traqués. Il en va alors de la légitimité du nouveau régime. À Vichy, on s'occupe beaucoup de trouver des accusés que l'on puisse commandément charger des responsabilités du désastre, commande de Gaulle depuis Londres dès le mois de septembre 1940. Il y aura certainement quelques jours en France un vrai procès des responsabilités. Mais il y a tout lieu de croire que certains des accusateurs d'aujourd'hui siégeront alors au banc des accusés. Édouard Daladier et Paul Reynaud sont arrêtés puis emprisonnés au même titre que Léon Blum, le général Gamelin ou encore Georges Mandel. Édouard Daladier, Léon Blum et le général Gamelin seront déférés devant le tribunal de Riom dans le Puy-de-Dôme en 1942, mais le procès inachevé n'aura pas l'effet escompté. Les efforts de défense et d'armement entrepris sous les gouvernements de Blum et Daladier sont en effet manifestes et certains accusés parviennent à présenter une défense si solide qu'elle menace de se retourner contre le régime en place. La chasse aux coupables est donc écourtée devant les tribunaux, mais tous les indésirables sont livrés à l'Allemagne. Paul Reynaud et Georges Mandel, qui ne sont finalement pas poursuivis, sont déportés comme tous les autres. Après la guerre, Édouard Daladier et Paul Reynaud reprendront finalement leur carrière politique en tant que députés sous la 4e République, sans pouvoir bénéficier de l'appui respectif de Marie-Louise de Crussol et Hélène de Porte, qui ne furent pas leur meilleure conseillère.
Et restez bien avec nous sur Europe 1 pour continuer à parler d'Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite. Nous recevrons dans un instant, Stéphane, votre invité qui raconte leur destin justement dans un roman, l'auteur Damien Roger. A tout de suite au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h,
au cœur de l'histoire.
Naruto.
C'est quoi cette musique? Tu t'es mis à la méditation?
Même pas, je suis juste détendu.
Toi, détendu? Oh ben c'est nouveau, ça.
J'ai entendu que Naruto remboursait jusqu'à 120 euros pour l'achat de pneus Michelin. Il y a de quoi être zen.
120 euros? C'est pas vrai.
Et si, c'est vrai. Jusqu'au 27 juillet, pour l'achat de pneus Michelin, Naruto vous rembourse jusqu'à 120 euros. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway, mars 2024. Conditions en centre et sur naruto.fr.
Qu'est-ce qui vous fait aimer le camping? C'est de pouvoir faire la grasse mat sous la tente. Après, quand on dit grasse mat, c'est sans compter le réveil de vos enfants qui, dès 7h du matin, décident de prendre votre matelas pour un trampoline. Chez Decathlon, on parie que vous allez adorer la technologie Fresh and Black de notre tente qui garde la fraîcheur et l'obscurité. Cette semaine, la tente Arpenaz 5 places 2 chambres est à 279,99€ au lieu de 349,99€, soit 70€ de remise.
L'héritage Goldman revient. L'aventure continue pour un nouveau voyage musical. Un show explosif pour redécouvrir les tubes cultes de Jean-Jacques Goldman et ceux qu'il a écrits pour les grandes voix de la chanson française. L'héritage Goldman 2, une tournée événement à ne pas manquer à partir du 17 septembre avec Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Europe 1, 15h, 16h, au cœur de l'histoire, Stéphane Bern.
Et du lundi au vendredi, Stéphane Bern, vous nous racontez la véritable histoire d'un personnage, d'un événement ou d'un monument. Et aujourd'hui, on parle de Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. Et pour en parler, c'est le moment d'accueillir votre invité, l'auteur Damien Roger.
Bonjour Damien Roger, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes haut fonctionnaire et auteur du roman Vanité des vanités aux éditions Privat. Au tout début de votre roman, avant même de plonger dans l'histoire, vous avez écrit « Les livres d'histoire jusqu'ici ne se sont pas penchés sur les destins d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol. À bien des égards, on peut s'en étonner. Ce roman, élaboré dans le strict respect des témoignages et des documents d'archives, tente de réparer cet oubli. » Justement, comment expliquez-vous que nous n'ayons jamais entendu parler de ces deux femmes dont le rôle a pourtant été décisif dans les années cruciales que sont l'année, par exemple, 1940.
Et écoutez, j'étais très surpris de découvrir que les Français de 1940 connaissaient parfaitement Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol. J'ai découvert d'ailleurs que la presse américaine était absolument captivée par la figure de la comtesse de Porte. Elle lui consacrait des chroniques, des unes, des dossiers entiers, et elle l'a surnommée la Du Barry moderne. Il est vrai néanmoins que ces deux femmes ont été aujourd'hui quelque peu oubliées. Je crois que les historiens sont assez réticents finalement à expliquer le cours de l'histoire par le gouvernement de l'alcôve, la tragédie du boudoir, ce que l'ancien président Poincaré appelait les influences d'oreiller. Et pourtant, on sait qu'en effet, ces femmes ont eu un rôle déterminant. Je remarque aussi que depuis quelques années, il y a une volonté de réhabiliter le rôle, la place des femmes dans l'histoire. Et évidemment, c'est un petit peu moins facile lorsqu'on a des figures qui ne sont pas des figures féminines positives, comme la comtesse de Porte et la marquise de Crussol. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de les remettre sur le devant de la scène, les remettre dans la lumière qu'elles ont finalement cherchée tout au long de leur vie.
Damien Roger, pourquoi avez-vous décidé de consacrer un roman à cette partie de notre histoire, à savoir les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale et la défaite de 1940?
Alors, pour moi, ce moment de 1940, c'est un moment de bascule absolument incroyable. Alors, nous avons tous bien sûr en tête les images de l'Exode, ces milliers, millions de Français qui se jettent en fait sur les routes pour fuir l'avancée des troupes allemandes. Les images aussi de l'arrivée des troupes du Reich dans Paris. Et bien sûr, il y a cette armée française, cette armée qui a alors la réputation d'être la plus forte du monde, qui va se trouver défaite, écrasée en à peine quelques jours. Donc je crois qu'il y a évidemment une défaite militaire. On a parlé d'un réarmement qui avait été insuffisant, d'une stratégie militaire qui était également sans doute inadaptée. Mais on voit bien que cette défaite, elle est aussi l'aboutissement d'une défaite morale, en fait, beaucoup plus large. Et donc, pour comprendre cette étrange défaite, pour citer Marc Bloch, je crois qu'il y a besoin justement de se replonger dans cette période trouble des années 30, qui est une période évidemment de crise très forte, vous l'avez dit, une période de polarisation politique. On pense à la crise du 6 février 1934, à l'arrivée du Front populaire en 1936, cette montée des périls en Europe. La France est quand même entourée de pays qui ont fait un choix qui n'est pas celui de la démocratie. Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne. Il y a aussi un certain nombre de groupes en France, de mouvements, je dirais, de rénovation politique, des mouvements technocratiques qui cherchent à se rapprocher avec l'Allemagne. Je pense au comité, notamment au comité France-Allemagne. Un certain nombre de mouvements aussi, de sociétés plus ou moins secrètes. Je pense à la Synarchie. Qui aurait joué un rôle aussi déterminant dans cette volonté de recherche, disons, d'une troisième voie et d'un rapprochement avec l'Allemagne. Et donc, il y a bien sûr aussi tout ce qui va se passer au cours de ce printemps 1940, ces tractations, ces intrigues, ces équilibres, cet équilibre politique précaire entre, d'un côté, les pacifistes, le clan des mous, on dit parfois, et le clan des partisans, des bellicistes, qui sont partisans d'une ligne de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc, j'ai eu envie de revenir sur ce contexte qui a conduit finalement à cet effondrement de 1940. Et je crois aussi que ce moment de 1940, à bien des égards, il trouve des échos dans la période que nous connaissons aujourd'hui.
Et comment vous avez découvert le rôle de ces deux femmes ? Vous êtes tombé sur des archives, sur des documents, sur...
Écoutez, moi je suis absolument passionné par cette période de l'occupation, de la Seconde Guerre. Et il est vrai que j'avais identifié cette personnalité d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol qu'on voit citée dans un certain nombre de documents. Et je me suis lancé dans des recherches approfondies. Alors d'abord, j'ai mobilisé bien sûr des archives, l'archive historique a constitué le matériau de base, je dirais, de ces recherches. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur des titres de presse et sur des mémoires des protagonistes et témoins de l'époque. Comme vous l'avez dit, un certain nombre de personnes ont eu à cœur de raconter en fait ce qui s'était passé au cours de ce printemps 1940, des hommes politiques, des conseillers ministériels, des journalistes, des chroniqueurs mondains. Et beaucoup en fait ont raconté dans le détail ces journées à Paris, Tours puis Bordeaux au cours du mois de mai-juin 1940. Et donc j'ai croisé ces différentes sources, ce qui m'a permis de reconstituer jour par jour, je dirais même heure par heure, les événements qui ont mené jusqu'à l'armistice. Et donc, ça m'a également permis aussi de mesurer l'influence absolument déterminante de la comtesse de Porte dans ces journées décisives qui ont vu basculer le destin de la France.
Mais quelle est la part de fiction et la part de réalité ? Tous les faits sont vrais, mais vous avez romancé leur vie ?
Alors, j'allais dire, tout est vrai. Tout est vrai dans le sens où j'ai scrupuleusement respecté la réalité historique des faits, leur déroulé, leur matérialité. Même une grande partie des dialogues du livre ont été rapportés par des témoins. Donc j'avais vraiment à cœur de respecter cette véracité psychologique des personnages. Et donc j'ai cherché à restituer avec fidélité non seulement les événements historiques, mais j'allais dire l'ambiance et aussi les rapports humains et la psychologie des personnages. Mmh.
Cet après-midi, on passe une heure au cœur de l'histoire d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. On continue d'en parler avec vous, Damien Roger.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Toute la semaine sur Europe 1, découvrez comment Acadomia accompagne les jeunes sportifs pour les aider à concilier réussite sportive et réussite scolaire. Et en attendant, découvrez-en plus sur acadomia.fr.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée !
Bah moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées, où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 euros. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non ? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault, oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024.
Alors, monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais
le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse. J'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pensez à covoiturer.
sur Europe 1, votre radio préférée qui cette semaine réunit la grande famille, animateurs, journalistes et vous bien sûr, chers auditeurs d'Europe 1. Tous les jours et tout au long de la journée, vous allez découvrir comment la rédaction travaille et prépare l'information libre que vous écoutez chaque jour. Assistez aux émissions aussi, comme par exemple Culture Média, Pascal Pro et vous, On marche sur la tête ou alors La table des bons vivants. Et cette semaine exceptionnelle est l'occasion aussi de célébrer les grands succès d'Europe 1, comme les audiences. En 2 ans, votre radio préférée a gagné plus de 700 000 auditeurs et c'est grâce à vous, la famille d'Europe 1 n'en finit pas de s'agrandir. Alors bienvenue à vous tous, chers nouveaux auditeurs d'Europe 1.
15h, 16h,
au cœur de l'histoire.
Stéphane Bern.
Et au cœur de l'histoire, dernière partie sur Europe 1, vous nous racontez aujourd'hui, Stéphane, le destin de Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940, avec votre invité qui leur redonne vie dans son nouvel ouvrage, l'écrivain Damien Roger.
Damien Roger, j'aimerais maintenant que l'on s'intéresse plus en détail à nos deux protagonistes du jour. Comment est-ce que vous analysez les personnalités respectives d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol?
Ce sont des femmes qui sont extrêmement ambitieuses, mais qui ont des tempéraments très différents. Hélène de Porte, elle a une personnalité volcanique. C'est une femme passionnée qui met la même ferveur dans les affaires politiques et dans les affaires de cœur. Je dirais que c'est une femme entière, incapable de dissimulation, et elle agit dans ce qu'elle croit être l'intérêt de son amant, Paul Reynaud, dont elle est profondément éprise. La marquise de Crussol, elle est davantage un animal à sang-froid, qui agit par calcul, et on peut dire peut-être qu'il se sert un peu de Daladier pour servir sa propre ambition et ses propres projets. Elle pose un peu à l'intellectuel, et le duo qu'elle forme avec son amant, c'est une relation platonique, ce duo, je dirais, c'est avant tout une association d'intérêts.
Quelles étaient leurs convictions politiques et idéologiques à chacune, si elles en avaient? Parce que parfois, on a l'impression que tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir.
Hélène de Porte penche à droite. À Marseille, son père fréquentait les marins traditionnellement hostiles à l'Angleterre. Et donc, plutôt que germanophile, moi je dirais que Hélène de Porte, elle nourrit une profonde défiance vis-à-vis des Anglais et des Américains. Hélène de Porte, comme vous dites, c'est aussi un esprit ductile que les revirements n'effraient pas. Et donc en 1938, au moment des accords de Munich, elle pourfend la mollesse de Daladier et de la marquise de Crussol, sa rivale. Et finalement, à partir de 1940, toute la fougue qu'elle avait mise à combattre les Munichois, elle va la mettre à tenter d'infléchir la politique de Paul Reynaud, qu'elle cherche à détourner du parti de la guerre. Et donc, elle s'efforce de nommer des personnalités du clan pacifiste dans l'entourage du président du Conseil. La marquise de Crussol, elle est aussi issue d'une famille conservatrice, mais ses combats féministes, notamment en faveur du suffrage des femmes et son rapprochement avec Daladier, l'ont conduit à se positionner au centre-gauche de l'échiquier politique. Dans son salon de l'avenue Henri Martin, elle va tisser tout un réseau de relations mondaines, littéraires, politiques, internationales aussi. Donc elle reçoit, comme vous l'avez dit, des intellectuels, des écrivains. Alors, des intellectuels favorables à l'alliance franco-soviétique, mais aussi des dirigeants de la haute finance. Avec les premiers, elle se montre intransigeante, elle fustige le pouvoir des 200 familles. Et avec les autres, elle tente finalement d'amadouer les milieux financiers. Et donc, en définitive, la marquise de Crussol, elle prend soin de se tenir, je dirais, à l'extrême centre. Mais c'est très difficile dans une période, je dirais, de polarisation politique très forte. Et donc, durant la crise de 1934, on la surnomme la marquise rouge. Et à partir de 1938 et la dislocation du Front populaire, on dit qu'elle aurait été la principale instigatrice des décrets Daladier qui vont inaugurer un glissement vers une politique beaucoup plus droitière. Donc je crois qu'en définitive, il ne faut pas sous-estimer la part d'opportunisme dont chacune de ces deux femmes a pu faire preuve.
Mais comment ces deux femmes étaient-elles perçues par leurs contemporains? J'ai raconté le mot un peu dur du général de Gaulle sur Hélène de Porte lorsqu'elle perd la vie, mais elles étaient perçues comme des... elles étaient craintes, elles étaient admirées, elles étaient respectées. Il y a des scènes dans votre livre où on voit que Paul Reynaud est alité et c'est Hélène de Porte qui dirige tout et qui nomme les gens, qui...
Ben, En fait, elles agaçaient beaucoup de monde, en fait. Et en effet, on les critique, on les vilipende, mais quand on est face à elles, on sait qu'elles sont aussi incontournables pour pouvoir accéder à leurs hommes, à leurs compagnons. Les témoignages des contemporaines ne sont pas tendres. Je pense notamment à l'écrivain André Mauroy, qui en 1941 écrit dans son ouvrage « Tragédie en France ». C'était une personne un peu folle que la suite des événements allait faire apparaître comme dangereuse. Je pense aussi au président du Sénat, Jules Jeanneney, qui la qualifie d'inquiétante personne. Le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, parle de femme infernale. Et Winston Churchill l'appelle le perroquet, parce qu'elle répète justement tout ce qu'elle entend. On n'est pas tendre non plus avec la marquise de Crussol, qu'on qualifie de moderne Jézabel. On l'accuse également d'entretenir le goût pour la boisson de son compagnon Daladier. Et donc, il y a une misogynie dont elles ont eu à souffrir. Vous avez cité le général de Gaulle qui s'exclame en 1940, apprenant l'accident, « J'espère qu'elle est crevée, la salope ». En 1965, il confie à l'historien Henri Amouroux, c'était une dinde comme toutes les femmes qui font de la politique. Donc vous voyez, il y a cette misogynie quand même très forte. On refuse en fait que ces femmes puissent jouer un rôle. Et finalement, je crois qu'on a fait payer à ces femmes l'impuissance politique de leurs compagnons en mettant sur leur dos la responsabilité de la défaite. Et je crois qu'il y a un parallèle à faire, notamment avec Marie-Antoinette, qu'on a également à son époque accusée d'être à l'origine de tous les maux du pays.
Oui, mais parce que l'homme était faible.
Parce que l'homme était faible, oui.
Si Hélène de Porte a connu un destin tragique en trouvant la mort dans un accident de voiture, Marie-Louise de Crussol était à Alger lors de la défaite de 1940. Quand et comment s'est passé son retour en France ?
Donc après son séjour à Alger, Marie-Louise de Crussol regagne la France au mois d'août 1940. Elle ne cherche pas à revoir Daladier, qui très vite va être emprisonné, puisqu'il est la cible du gouvernement du maréchal Pétain. Elle ne lui rend jamais visite en prison durant cette période. Et elle engage une procédure de divorce à l'encontre de son époux, Emmanuel de Crussol. J'étais très surpris de découvrir que dès l'automne 1940, la marquise de Crussol tente un retour en politique en se rendant à Vichy, alors que a priori, elle est plutôt justement persona non grata. Et en fait, finalement, ce séjour se passe mal. Dans la rue, on murmure sur son passage. Le ministre de l'Intérieur, Marcel Perrouton, juge sa présence indésirable et le lui fait savoir. Et donc, elle doit partir le jour même. Et à la gare de Vichy, à ce moment-là, une manifestation est organisée. Un certain nombre d'anciens combattants veulent lui remettre une gerbe, un bouquet, avec cette mention de la part de nos 60 000 morts, parce qu'on considère que la marquise de Crussol est au premier chef responsable de cette défaite de 1940. Et à ce moment-là, donc, elle est accompagnée de son frère, et elle aurait eu ce mot étonnant, « Ils ne savent pas qui je suis, je vais le leur dire. » Et son frère aurait rétorqué, « Ils ne le savent que trop, malheureuse », avant de l'engouffrer dans le wagon. Et donc, à partir de ce moment, et tout au long de la guerre, elle reste à Paris, mais elle se fait discrète. Et en 1951, elle se remarie avec son ex-époux, devenu entre-temps le nouveau duc d'Uzès. Ce dernier meurt 3 mois plus tard. Désormais, elle est duchesse d'Uzès.
Duchesse d'Ouerrière.
Et elle va s'atteler à la restauration du château et du domaine familial dans le Gard. Et elle s'éteint en 1991 à l'âge de 87 ans.
Vanité des vanités, Damien Roger, votre deuxième roman, le premier, intitulé « Arienne d'honneur », racontait l'histoire de 3 femmes juives dont les familles étaient proches du maréchal Pétain. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le destin des femmes qui sont emportées par le tourbillon de l'histoire, et particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale ?
Le fait que ces femmes soient passées complètement finalement sous les radars a constitué pour moi une opportunité pour mener des recherches inédites, finalement, sur des femmes oubliées, des femmes au destin aussi quand même particulièrement complexe. Je pense aux Ariennes d'honneur, la marquise de Chasseloup-Lauba, la baronne de Langlade et la comtesse d'Aramon, toutes 3 Nechternes, qui sont des proches du maréchal et de la maréchale, et qui vont se retrouver confrontées à une situation très complexe, rattrapées par une identité qu'elles ont cherché toute leur vie à effacer. Avec la comtesse de Porte et la marquise de Crussol, on a affaire à des trajectoires un peu différentes, mais également, je dirais, elles ont en commun d'être dans des, des trajectoires d'ascension sociale qui vont être finalement confrontées à l'histoire. Et donc, j'ai eu envie, en fait, finalement, d'explorer avec des yeux neufs cette période passionnante qui est celle de l'occupation.
Merci beaucoup, Damien Roger, de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire d'Hélène Deporte et de Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. Je rappelle que votre roman « Vanité des vanités » est disponible aux éditions Priva.
Et avec vous, Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, je vous raconte un autre destin de femme qui a eu un rôle dans la Seconde Guerre mondiale, bien différent cependant, Elisabeth de Miribel, la première combattante de la France libre, celle qui a dactylographié l'appel du 18 juin. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.
Et oui, bientôt 16h sur Europe 1, c'est le moment de retrouver Jean-Marc Morandini. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore exceptionnellement dans l'attente du grand retour de Cyril Hanouna. Bien évidemment, on va aborder plusieurs sujets ensemble. On va parler de cette fameuse émission qui va diffuser ce soir sur France 2 et qui s'intitule « Sommes-nous tous racistes ?» Une émission qui fait déjà polémique. On parlera d'une